comte de l'Alhambra, le prince Ahmed al-Kamel ou le pèlerin d'amour, deuxième partie. Le prince sortit de Séville, alla chercher son compagnon le hibou, qui sommeillait encore dans son arbre creux, et tous deux prirent le chemin de Cordoue, à travers les bosquets d'orangers et de citronniers qui ombragent la belle vallée de Guadalquivir. Arrivés aux portes de cette ville, le hibou prit son vol jusqu'à une crevasse de la muraille, et le prince se mit sur le champ à la recherche du palmier, planté dans les anciens jours par le grand Abderram. On le voyait, dans la cour de la mosquée, dépasser les plus hautes cimes des orangers et des cyprès. Des derviches, des fakirs, formaient divers groupes assis sous les portiques, et des dévots faisaient leurs ablutions à la fontaine avant d'entrer dans la mosquée. Au pied de l'arbre, un rassemblement nombreux paraissait écouter une personne qui parlait avec une grande volubilité. « Ce doit être, dit le prince en lui-même, le grand voyageur qui me donnera des nouvelles de ma princesse. » Il se mêla dans la foule et fut bien étonné de voir que l'orateur, autour duquel se rassemblait un si bel auditoire, était un perroquet au brillant plumage vert, à la mine composée, à la huppe insolemment redressée, qui avait tout l'air d'un oiseau extrêmement satisfait de lui-même. « Comment se fait-il, dit le prince à l'un des auditeurs, que tant de personnes raisonnables s'amusent du babil d'un oiseau de cette espèce ?»« Vous ne savez pas de qui vous parlez, répliqua l'autre. Ce perroquet descend du fameux perroquet de Perse, si célèbre pour ses talents dans la divination. Il a toute la science de l'Orient sur le bout de sa langue et cite des vers aussi vite qu'il parle. Dans tous les pays qu'il a parcourus, on l'a regardé comme un miracle d'érudition. Près des femmes surtout, ses succès ont été prodigieux, car le beau sexe a toujours fait grand cas des perroquets savants qui citent des vers. « C'est fort bien, dit le prince, je vois que j'avais mal jugé, et je désirerais avoir quelques moments d'entretien avec ce voyageur distingué. » Il sollicita une entrevue secrète et commençait à exposer l'objet de son pèlerinage, mais à peine eut-il prononcé quelques mots que le perroquet partit d'un éclat de rire perçant et continua de rire jusqu'aux larmes. « Excusez ma folle gaieté, dit-il, mais le seul mot d'amour me fait toujours crever de rire. » Le prince, mortifié de cette hilarité déplacée, lui dit très gravement « L'amour n'est-il pas le grand mystère de la nature, le secret principe de la vie, le lien universel de la sympathie ?» Bagatelle, pure bagatelle, où as-tu pris de grâce ce jargon sentimental? Crois-moi, l'amour est tout à fait passé de mode. L'on n'en parle ni parmi les gens d'esprit, ni dans la bonne compagnie. Le prince soupira en se rappelant le langage si différent de son ami le pigeon. Mais ce perroquet, pensait-il, a passé sa vie dans les cours. Il fait le bel esprit et tranche du gentilhomme. Il ne doit rien entendre à l'amour. Et, comme il ne voulait pas provoquer de nouveaux colibés sur le sentiment qui remplissait son cœur, il fit des questions directes sur l'objet de sa visite. « Dites-moi, je vous prie, très accompli perroquet, vous qui avez été admis dans les asiles les plus secrets de la beauté, n'auriez-vous jamais, dans le cours de vos voyages, rencontré l'original de ce portrait ?» Le perroquet prit le portrait dans ses griffes, tourna la tête de côté et d'autre pour le regarder de chacun de ses yeux. Enfin, il s'écria, « Sur mon honneur, voilà un joli visage, un très joli visage. Mais j'ai vu tant de jolies femmes dans mes voyages qu'il me serait bien difficile. Attendez. Oui, maintenant je me rappelle ces traits-là. Je ne me trompe point. C'est la princesse Aldegonde. Comment ai-je pu oublier une de mes meilleures amies ?»« La princesse Aldegonde ?» répéta le prince. « Et où la trouver ?»« Doucement, doucement. Il est encore plus facile de la trouver que de l'obtenir. Cette princesse est fille unique du roi Chrétien de Tolède. Elle doit vivre loin du monde jusqu'à l'âge de 17 ans, grâce à certaines prédictions de ces tracassiers d'astrologues. Il vous serait impossible de la voir, car aucun mortel ne peut aborder le palais où son père la tient enfermée. Mais j'ai été admise auprès d'elle pour l'amuser, et je vous jure, foi de perroquet du monde, que j'ai rencontré plus d'une princesse moins aimable qu'elle. Un mot en confidence, mon cher perroquet, dit le prince. Je suis héritier d'un royaume. Je vois que vous êtes un oiseau d'esprit et que vous connaissez le monde. Aidez-moi à gagner le cœur de cette princesse et je vous promets une place distinguée dans ma cour. J'accepte de grand cœur, dit le perroquet. Mais tâchez que ce soit une sinécure. Nous autres gens d'esprit, nous avons le travail en horreur. » Les conventions furent bientôt faites. Le prince prit, pour sortir de Cordoue, la même porte par laquelle il y était entré, appela le hibou, le présenta à son nouveau compagnon de voyage, comme un savant confrère, et tous ensemble se mirent en route. Il marchait bien plus lentement que l'impatient Ahmed ne l'aurait voulu. Mais le perroquet, accoutumé à vivre en grand seigneur, n'aimait pas à se lever matin. D'autre part, le hibou voulait dormir au milieu de la journée et faisait perdre beaucoup de temps par ses longues siestes. De plus, sa manie d'antiquaire était encore un motif de retard. Il insistait pour s'arrêter à toutes les ruines et les explorer. Il avait de longues histoires à conter sur tous les vieux monuments de la contrée. Le prince avait imaginé que cet oiseau et le perroquet, gens instruits l'un et l'autre, se conviendraient beaucoup. Mais il fut bien trompé. Ils se picotaient sans cesse. L'un était bel esprit, l'autre philosophe. Le perroquet citait des vers, faisait des observations critiques sur de nombreux ouvrages, abondait en petites remarques sur des points d'érudition peu importants. Le hibou considérait tout cela comme très frivole et déclarait qu'il n'estimait que la métaphysique. Alors le perroquet chantait des chansons, lançait des épigrammes et des mots piquants sur la solennelle gravité de son compagnon. En les accompagnant d'un rire de satisfaction de lui-même, tout à fait provoquant. Le hibou regardait ses procédés comme autant d'outrages insupportables faits à sa dignité, se rengorgeait, renflait ses plumes d'un air mécontent et gardait le silence pendant tout le reste de la journée. Le prince s'apercevait à peine du peu d'accord qui régnait entre ses deux amis. Entièrement occupé des rêves de son imagination et de la contemplation du portrait de la belle princesse, il ne voyait rien de ce qui se passait autour de lui. De cette manière, nos voyageurs passèrent la sauvage et aride Sierra Morena et les plaines desséchées de la Manche et de la Castille, en suivant les bords du Tage, qui baigne, dans son cours tortueux, la moitié de l'Espagne et du Portugal. Enfin, ils arrivent près d'une ville fortifiée de tours et de murailles crénelées, bâtie sur un rocher autour duquel le tage bouillonne à grand bruit. « Vous voyez, s'écria le hibou, l'ancienne et célèbre ville de Tolède, si renommée pour ses antiquités. Vous voyez ces dômes vénérables, ces tours dégradées par le temps, mais empreintes de la grandeur des souvenirs historiques. Ces tours dans lesquelles un si grand nombre de mes ancêtres ont médité. « Bast !» dit le perroquet en l'interrompant brusquement au milieu de ses transports d'antiquaires. « Qu'avons-nous à faire de toutes ces vieilleries, des tours ruinées, des anciennes histoires et de vos ancêtres ? Voici qui touche bien plus directement à notre but. Voici l'asile de la beauté et de la jeunesse. Vous avez enfin devant vous, ô prince, la demeure de la princesse que vous cherchez depuis si longtemps. » Le prince tourna les yeux vers l'endroit indiqué par le perroquet et vit, au milieu d'une prairie délicieuse, sur les bords du Tage, un palais superbe qui se levait au-dessus des bosquets d'un jardin délicieux. C'était un lieu semblable que le pigeon avait décrit comme la retraite de l'original du portrait. Il le contemplait, le cœur palpitant d'émotions diverses. Peut-être en ce moment, pensait-il, la belle princesse se livre à quelque amusement de son âge avec ses compagnes, sous l'ombrage de ses bosquets, ou bien elle se promène d'un pas léger sur les terrasses élevées, ou bien encore elle repose dans les magnifiques appartements. En examinant cet édifice avec attention, Ahmed observa, non sans chagrin, que les murailles du jardin étaient d'une hauteur qui rendait tout accès dans leur enceinte impossible à des humains et que des gardes bien armés veillaient autour d'elles. Il se tourna vers le perroquet et lui dit « Ô le plus accompli des oiseaux, puisque la nature t'a doué de la parole, « va au jardin, cherche l'idole de mon cœur, et dis-lui que le prince Ahmed, un pèlerin d'amour guidé par les étoiles, vient d'arriver, pour la chercher, sur les bords fleuris du Tage. » Le perroquet, tout fier de son ambassade, vola vers le jardin, s'éleva au-dessus de ses hautes murailles, et, planant quelques instants sur les bosquets et les gazons, descendit sur le balcon d'un pavillon. De là, il aperçut, en regardant à travers une fenêtre ouverte, la princesse à demi couchée sur un sofa, les yeux fixés sur un papier. Des larmes coulaient doucement sur ses joues de lys. Après avoir passé le bec dans les plumes de ses ailes, rajusté son habit vert et relevé sa huppe, le perroquet alla se percher à côté de la belle dame d'un air galant. Puis, du ton le plus doux qu'il lui fut possible de prendre, il lui dit « Sèche tes larmes, ô la plus charmante des princesses, je viens apporter la consolation à ton cœur. » La princesse tressaillit en entendant une voix aussi près d'elle, mais ne voyant qu'un oiseau vert, qui la saluait en battant des ailes. « Hélas, quelle consolation peux-tu me donner ? » disait-elle, « puisque tu n'es qu'un perroquet. » Le perroquet, un peu piqué de la question, lui répondit « J'ai consolé plus de deux belles dames en mon temps, mais laissons cela. Maintenant, je viens comme ambassadeur d'un prince royal. Apprends aux princesses qu'Ahmed Al-Kamel, prince de Grenade, est arrivé pour te chercher, et campe en ce moment sur les bords fleuris du Tage. » À ces mots, les yeux de la princesse devinrent plus brillants que les diamants de sa couronne. « Oh, le plus aimable des perroquets, dit-elle, bénie soient les nouvelles que tu m'apportes. J'étais prête à mourir de douleur, dans le doute où j'étais sur la constance du prince. Retourne vers lui. Assure-le que chaque mot de sa lettre est gravé dans mon cœur, que ses vers ont été la nourriture de mon âme. Dis-lui cependant qu'il doit se préparer à me prouver son amour par la force de ses armes. Demain, en l'honneur de mon 17e anniversaire, mon père tiendra un tournoi dans lequel plusieurs princes entreront en lice, et ma main sera le prix du vainqueur. » Le perroquet prit son vol, rasa les arbres des bosquets, dépassa l'enceinte du palais et fut en un instant près d'Ahmed. Le ravissement de ce prince est impossible à décrire. Il avait trouvé l'original de l'image si longtemps adorée. Il l'avait trouvée sensible et fidèle. Les mortels favorisés qui ont eu, comme lui, le bonheur de voir leurs rêves se réaliser et l'ombre se changer pour eux en substance, peuvent seuls se faire une idée de ces transports. Toutefois, il n'était pas sans mélange d'inquiétude. Ce tournoi, ces chevaliers qui se préparaient à lui disputer la possession de cet objet chéri, ne lui permettaient pas de se livrer tout entier à sa joie. Les rives du Tage retentissaient déjà du son aigu des trompettes des guerriers qui arrivaient chacun avec une suite brillante pour les fêtes de Tolède. La même étoile qui avait présidé à la destinée d'Ahmed avait gouverné celle de la princesse. Et, jusqu'à sa 17e année, elle était restée enfermée dans son palais solitaire pour se garantir des maux que l'amour pouvait lui causer avant cette époque. Cependant, la renommée de ses charmes s'était accrue par sa retraite. Plusieurs princes se disputaient sa main. Le roi de Tolède, son père, monarque d'une merveilleuse prudence, pour éviter de se faire des ennemis en montrant de la partialité à l'un ou à l'autre des prétendants, s'en remit pour le choix d'un gendre au sort des armes. Parmi les candidats, plusieurs étaient renommés pour leur force et leur vaillance. Quelle situation pour le malheureux Ahmed, dépourvu d'armes, ignorant tous les exercices de la chevalerie. « Suis-je assez infortuné, disait-il, d'avoir été élevé dans la retraite et sous les yeux d'un philosophe? À quoi servent la philosophie et l'algèbre dans les affaires d'amour? Hélas, Ebn Bonaben, pourquoi as-tu négligé de m'instruire dans le maniement des armes ? » Là-dessus, le hibou rompit le silence et commença son discours par une pieuse invocation en bon musulman qu'il était. « Allah Akbar, Dieu est grand. Les choses les plus secrètes sont dans ses mains. Lui seul gouverne la destinée des princes. Apprends que cette contrée est pleine de mystères qui ne sont connus que d'un petit nombre d'érudits, adonnés comme moi aux sciences occultes. Apprends qu'il existe dans les montagnes voisines une caverne, que dans cette caverne est une table de fer, et sur cette table des armes enchantées, à côté desquelles se tient un beau cheval également enchanté, et tout cela est resté caché en ce lieu depuis des siècles. » Le prince fut saisi d'étonnement, et le hibou, écarquillant tour à tour et faisant clignoter ses grands yeux ronds et redressant ses cornes, continua ainsi. « J'accompagnais mon père, il y a bon nombre d'années, dans une tournée qu'il fit en ce pays pour visiter ses possessions. Et comme nous fixâmes notre séjour dans cette caverne, j'eus l'occasion d'en connaître les mystères. D'après une tradition de notre famille, qui m'a été communiquée par mon grand-père quand j'étais tout petit, cette armure appartenait à un magicien mort qui se réfugia dans la caverne lors de la prise de Tolède par les chrétiens. Et il mourut en laissant son cheval et son armure complète sous un charme qui empêchait qu'elle ne pût se servir à d'autre qu'à un musulman. Et à celui-ci seulement, depuis le lever du soleil jusqu'à midi. Dans cet intervalle, quiconque en fait usage et sûr de triompher de tous ses adversaires. « C'est assez, cherchons cette caverne sans perdre un instant !» s'écria le prince. Guidé par son savant mentor, Ahmed trouva la caverne. C'était l'une de ces retraites sauvages formées au milieu des collines rocailleuses qui environnent Tolède. L'œil d'un antiquaire ou d'un hibou pouvait seul en découvrir l'entrée. Une lampe sépulcrale, dans laquelle brûlait une huile qui ne s'épuisait jamais, répandait une clarté solennelle sur l'intérieur de ce réduit. Sur une table, au centre de la grotte, gisait l'armure enchantée. À côté d'elle, on voyait le coursier arabe, harnaché comme pour le combat, mais aussi immobile qu'une statue. Les armes étaient aussi polies, aussi brillantes que si elles sortaient des mains de l'ouvrier. Le cheval frais, en bon état, comme s'il revenait du pâturage. Et, quand Ahmed mit la main sur son cou, il frappa la terre de son pied et fit un hennissement de joie qui ébranla les parois de la caverne. Ainsi pourvu d'armes et de montures, le prince ne sentit plus que l'impatience d'entrer en lice contre ses rivaux. Le jour fatal arriva. On prépara la lice pour le tournoi dans la Vega, ou plaine qui s'étend au-dessous des murailles de Tolède. On y fit dresser des amphithéâtres et des galeries pour les spectateurs. On les couvrit de riches tapisseries, et des auvents de soie les garantissaient des rayons du soleil. Toutes les beautés de la contrée remplissaient ces galeries. Au-dessous, on voyait parader de brillants chevaliers, couverts de riches armures, avec des casques ornés de plumes flottantes. Parmi ces chevaliers, les princes qui devaient combattre dans le tournoi se distinguaient par leur bonne mine et la magnificence de leurs armes et de leurs chevaux. Cependant, toutes les beautés des galeries furent éclipsées quand la princesse Aldegonde parut dans le pavillon royal et se montra pour la première fois aux yeux éblouis d'une foule d'admirateurs. Un murmure d'étonnement et de plaisir s'éleva de tous côtés à sa vue. Et les princes, qui ne recherchaient sa main que sur la renommée de ses charmes, sentirent décupler leur ardeur pour le combat. Mais la princesse paraissait inquiète. Elle rougissait et pâlissait tour à tour. Ses yeux parcouraient sans cesse la foule et leurs regards annonçaient le mécontentement et la crainte. Les trompettes allaient donner le signal de la première course lorsqu'un héros annonça l'arrivée d'un chevalier étranger et le prince Ahmed entra dans la lice. Un armé d'acier, orné de pierres précieuses, paraissait au-dessus de son turban. Sa cuirasse était dorée, son cimeter et son poignard, fabriqués à Fès, étincelaient de diamants. Un bouclier rond était passé dans l'un de ses bras, l'autre portait la lance enchantée. Le caparaçon de son beau cheval arabe était richement brodé et tombé jusqu'à terre, et le superbe animal faisait de gracieuses courbettes, aspirait l'air par ses naseaux fumants et faisait entendre de joyeux hennissements en revoyant encore un champ de bataille. L'air noble, la taille élégante du prince Ahmed frappèrent tous les yeux. Et lorsqu'il fut annoncé sous le nom du pèlerin d'amour, une grande agitation régna parmi les dames des galeries. Cependant, quand Ahmed se présenta pour entrer en lice, la barrière lui fut fermée. Il fallait être prince pour être admis à combattre. Il déclara son nom et son rang. Ce fut bien pis. Il était mahométan et ne pouvait prendre part à un tournoi dont la main d'une princesse chrétienne était le prix. Les princes, ses compétiteurs, l'entourèrent d'un air hautain et menaçant. Et l'un d'eux, remarquable par sa taille d'Hercule et ses manières insolentes, cherchait à tourner en ridicule son tendre surnom de pèlerin d'amour. Le prince furieux défia son rival. Ils prirent du champ et coururent l'un contre l'autre. Mais au premier choc de la lance magique, le mauvais plaisant, malgré sa stature énorme et sa force prodigieuse, vida les arçons. Ahmed eût voulu s'en tenir là, mais il avait affaire à un cheval démoniaque, à des armes ensorcelées. Une fois en action, rien ne pouvait les arrêter. Le coursier arabe se lança dans le groupe le plus serré, et la lance renversait tout ce qui se présentait. L'aimable et paisible prince, emporté à travers la foule et couvrant l'arène de chevaliers abattus, sans distinction de rang, de valeur ou d'adresse, gémissait de ses exploits involontaires. Le roi crevait de rage en voyant ses sujets et ses hôtes ainsi malmenés. Il ordonna à ses gardes de se saisir de celui qui osait l'outrager ainsi. Les gardes étaient désarçonnés aussi vite qu'ils arrivaient. Le roi arracha sa longue robe, saisit son bouclier et sa lance, et descendit lui-même dans la lice pour en imposer à l'étranger par la majesté royale. Hélas, sa majesté eut le même sort que le vulgaire. La lance et le destrier n'avaient d'égard pour personne. Au grand désespoir d'Ahmed, il fut porté justement en face du roi, et, deux secondes après, les talons royaux étaient en l'air et la couronne roulait dans la poussière. En ce moment, le soleil atteignait son méridien. L'enchantement reprenait son pouvoir. Le cheval arabe s'élança dans la plaine, franchit la barrière, se plongea dans le Tage, rompit en nageant ses flots écumants et porta le prince hors d'haleine et désespéré dans la caverne magique. Ahmed, trop heureux de descendre sain et sauf de son coursier diabolique, replaça l'armure et se soumit à ses nouveaux décrets du destin. Assis dans la grotte, il réfléchissait au malheur que ses armes et ce coursier avaient attiré sur lui. Oserait-il jamais montrer son visage dans Tolède, après avoir infligé tant de honte à ses chevaliers, un outrage aussi grand à leur roi? Que penserait surtout la princesse d'une conduite si grossière et si insultante? Plein d'anxiété, il envoya ses confidents zélés à la quête des nouvelles. Le perroquet courut toutes les places publiques et tous les carrefours de Tolède, et revint bientôt avec une ample moisson de caquet. La ville entière était dans la consternation. La princesse avait été emportée du pavillon sans connaissance. Le tournoi avait fini au milieu de la confusion. Tout le monde parlait de l'apparition soudaine, des exploits surprenants, de la disparition plus surprenante encore, du chevalier musulman. Quelques-uns prononçaient que ce devait être un magicien mort. D'autres pensaient que c'était un démon qui avait pris la forme humaine. Tandis que d'autres, se rappelant les traditions des guerriers enchantés dans les cavernes des montagnes, supposaient que ce pouvait être l'un d'entre eux qui avait fait cette irruption du fond de son repère. Chacun s'accordait toutefois à dire qu'un simple mortel n'aurait pu accomplir ces faits extraordinaires et démonter sans peine tant de braves chevaliers chrétiens. Le hibou sortit à son tour dès qu'il fut nuit et rôda par toute la ville dans l'obscurité en se perchant sur les toits et les cheminées. Il dirigea enfin son vol sur le palais royal, construit sur le sommet du rocher de Tolède, et en parcourut les terrasses et les créneaux, furetant dans tous les coins et appliquant ses yeux étonnés à chaque fenêtre où il apercevait de la lumière. Il fit ainsi évanouir de peur deux ou trois filles d'honneur et continua ses recherches jusqu'au point du jour. Alors il alla retrouver le prince et lui conta ce qu'il avait découvert dans son expédition. En voletant devant l'une des plus hautes tours du palais, j'ai vu par une de ses fenêtres la belle princesse. Elle était sur un lit, entourée de médecins et de femmes, mais elle refusait tout ce qu'il lui offrait pour la soulager. Quand ils furent sortis de la chambre, je la vis tirer une lettre de son sein, la lire, la baiser et faire de pitoyables lamentations desquelles je fus extrêmement peu touché en ma qualité de philosophe. Le tendre cœur d'Ahmed fut accablé de ces tristes nouvelles. « Tu ne disais que trop vrai, sage Ebn Bonaben, s'écriait-il. La tristesse, les soucis, les jours agités, les nuits sans sommeil sont le partage des amants. Allah préserve la princesse de la funeste influence de cet amour que, dans ma folie, j'ai tant désiré connaître. » De nouvelles informations que le prince eut de Tolède confirmèrent le rapport du hibou. La ville était en proie aux plus vives alarmes. On avait enfermé la princesse dans la plus haute tour du palais, dont tous les abords étaient soigneusement gardés. Cependant, une sombre mélancolie s'était emparée d'elle et personne ne pouvait en deviner la cause. Elle refusait de prendre aucune nourriture et fermait l'oreille à toute consolation. En vain, les médecins les plus habiles avaient tenté toutes les ressources de leur art, et l'on finit par croire qu'elle était sous la puissance de quelque sortilège. Le roi fit proclamer par tout le royaume que quiconque pourrait guérir l'infante, quelle que fût la cause de son mal, recevrait en récompense le plus riche joyau de son trésor. Quand le hibou entendit, d'un coin de la caverne dans lequel il était assoupi, cette proclamation, il roula ses grands yeux et prit un air plus mystérieux que jamais. « Allah Akbar !» dit-il. « Heureux celui qui pourra effectuer cette cure, s'il savait seulement ce qu'il doit choisir entre tous les joyaux de la couronne. « Quelle est votre pensée, vénérable hibou ? » demanda le prince. « Écoutez mes paroles, ô mon prince, et vous verrez à quoi se rapporte ce que je viens de dire. Nous autres, hibou, comme bien vous savez, nous formons un corps savant, très adonné surtout aux recherches obscures et poudreuses. Pendant ma dernière excursion nocturne parmi les dômes et les tourelles de Tolède, j'ai découvert une académie de hiboux antiquaires dont les assemblées se tiennent dans la grande tour voûtée où le trésor royal est déposé. Là, ces savants dissertent longuement sur les formes, les inscriptions et les dessins des anciens joyaux et des vases d'or et d'argent qui sont entassés dans cette pièce sur les modes des différents pays, des différents âges. Mais ils s'intéressent surtout à certaines reliques et talismans que l'on conserve là depuis Roderick, le roi Goth. Parmi ces derniers objets est un coffre en bois de santal, soutenu par des bandes de fer à la manière orientale, et couvert de caractères mystérieux connus seulement de quelques doctes personnages. Cette boîte et son inscription ont occupé plusieurs séances de l'Académie et levé de grandes disputes entre ses membres. Au moment de ma visite, un très vieux hibou, récemment arrivé d'Égypte, était posé sur le bord du coffre et lisait les mots inscrits sur son couvercle. Il prouva, d'après ces mots, que le coffre contenait le tapis de soie du trône de Salomon le Sage. et qu'il devait avoir été apporté à Tolède par les Juifs qui s'y réfugièrent lors de la chute de Jérusalem. Quand le hibou eut terminé son discours érudit, le prince resta quelque temps absorbé dans ses méditations et dit enfin « J'ai entendu parler au sage Eben Bonaben des propriétés de ce talisman qui disparut lors de la chute de Jérusalem et que l'on croyait perdu pour le genre humain. Sans doute son existence est un mystère pour les chrétiens tolédans. Si je puis avoir ce coffre en ma possession, mon bonheur est certain. » Dès le lendemain, le prince changea ses riches vêtements pour le simple habit d'un arabe du désert. Il teignit son visage et ses mains d'une couleur cuivrée, et personne n'aurait pu reconnaître en lui le brillant chevalier qui avait causé tant d'admiration et d'épouvante dans le tournoi. Le bâton à la main, le panier au côté avec un petit pipeau champêtre, il se rendit à Tolède et, se présentant aux portes du palais, s'annonça comme un prétendant à la récompense promise pour la guérison de la princesse. Les gardes voulaient le chasser honteusement. « Comment un misérable arabe bédouin tel que toi pourrait-il faire ce que les plus savants ont en vain testé ?» Mais le roi, entendant le tumulte, en demanda la cause et ordonna que cet homme lui fût amené. « Très puissant roi, dit Ahmed, vous voyez devant vous un arabe bédouin, dont la plus grande partie de la vie s'est écoulée dans les solitudes du désert. On sait qu'elles sont hantées par toutes sortes de démons et de mauvais esprits qui nous tourmentent, nous autres pauvres bergers, quand nous gardons nos troupeaux loin de toute habitation. Entre dans le corps de nos bêtes et quelquefois rendent furieux le patient chameau lui-même. Pour rompre ces enchantements, nous n'employons point d'autre moyen que la musique, et certains airs que nous conservons de génération en génération, joués sur le chalumeau ou chantés, ont le pouvoir de chasser ces mauvais esprits. Je suis d'une famille éminemment douée de cette vertu merveilleuse contre les sortilèges et les charmes, et je la possède dans toute sa plénitude. Si quelque mauvaise influence de ce genre retient votre fille dans l'état fâcheux où l'on dit qu'elle se trouve, je promets sur ma tête de l'en délivrer. » Le roi était un homme de grand jugement. Il connaissait ces secrets des Arabes dont le bédouin venait de lui parler. Et la confiance avec laquelle ce berger s'exprimait le remplit d'espérance. Il le conduisit donc à la chambre de la princesse. Les fenêtres de cette chambre donnaient sur une terrasse à balustrade, d'où l'on découvrait toute la ville de Tolède et les campagnes environnantes. Mais elles étaient fermées, car la princesse, dans sa noire mélancolie, ne voulait admettre aucune sorte d'allégement. Le prince prit un siège sur la terrasse et joua sur son chalumeau quelques airs arabes qu'il avait appris de ses domestiques au Généralife. La princesse resta insensible, et les docteurs qui se trouvaient là branlaient la tête et souriaient d'un air d'incrédulité et de mépris. Enfin, le prince laissa le chalumeau et se mit à chanter sur une simple mélodie les vers qu'il avait envoyés à la princesse avec sa déclaration d'amour. La belle princesse reconnut l'estance. Une joie soudaine s'empara de son cœur. Elle leva la tête, écouta. Des larmes coulaient de ses yeux, son sein palpitait, une vive rougeur couvrait son visage. Elle aurait bien voulu demander que le ménestrel fût admis en sa présence, mais la pudeur craintive d'une vierge l'empêchait de parler. Le roi comprit ce qu'elle désirait et commanda que le chanteur fût amené dans la chambre. Les deux amants furent discrets. Ils se contentèrent d'échanger quelques tendres regards qui en disaient plus que des volumes. Jamais triomphe ne fut plus complet. Les roses avaient reparu sur les joues de la charmante Aldegonde. Ses lèvres avaient repris leur fraîcheur, ses yeux leur humidité brillante. Les médecins se regardaient avec étonnement. Le roi considérait le bédouin avec un mélange d'admiration et de respect. « Merveilleux jeune homme, s'écria-t-il, je veux que tu sois mon premier médecin. Je ne prendrai jamais d'autre médecine que ta douce mélodie. Pour le présent, reçois la récompense qui t'est due. Choisis le plus précieux joyau de mon trésor. » « Ô roi, dit Ahmed, l'or, l'argent et les pierres précieuses ne me tentent point. Mais tu possèdes une relique, un coffre de bois de santal qui renferme un tapis de soie. Donne-moi cette boîte et je suis content. » Tous les assistants furent surpris de la modestie de ce choix, et plus encore lorsque, le coffre ayant été apporté, le tapis de soie en fut tiré. Il était de belle soie verte et tout couvert de caractères hébraïques et chaldéens. Les médecins de la cour se regardaient en haussant les épaules et souriaient de la simplicité de leur nouveau confrère qui se contentait d'honoraires si médiocres. « Ce tapis, dit le prince, a couvert jadis le trône de Salomon, le plus sage des monarques. Il est digne d'être placé sous les pieds de la beauté. » En parlant ainsi, il déployait le tapis sur la terrasse, au-dessous d'une ottomane qu'on y avait portée pour la princesse. Et, s'asseyant à ses pieds, « Qui peut s'opposer aux arrêts du destin ? Dit-il. Les prédictions des astrologues sont accomplies. Ô roi, nous nous aimons en secret depuis longtemps, votre fille et moi. Vous voyez devant vous le pèlerin d'amour. » À peine avait-il achevé ces mots que le tapis s'éleva en l'air, emportant le prince et la princesse. Le roi et les médecins restèrent stupéfaits, la bouche ouverte, les yeux fixés sur le fugitif, jusqu'à ce qu'il devinsse comme un point noir, qui se détachait comme un blanc nuage et se perdissent enfin dans l'azur du ciel. Le roi, furieux, fit appeler son trésorier. « Comment as-tu laissé un infidèle prendre possession d'un talisman aussi précieux ? Lui dit-il. « Hélas, sire, répondit le trésorier, nous ne connaissions ni ses vertus, ni le sens des caractères inscrits sur son couvercle. Si c'est en effet le tapis du roi Salomon, il est doué du pouvoir magique de transporter son possesseur dans les airs où il lui plaît d'aller. » Le roi assembla une puissante armée et partit pour Grenade. Sa marche fut longue et difficile. Devant Grenade, il prit ses campements dans la Vega et envoya un héros réclamer sa fille. Le roi de Grenade sortit lui-même avec toute sa cour pour saluer le monarque Tolédan qui reconnut en lui le ménestrel. Ahmed venait de monter sur le trône à la mort de son père et la belle Aldegonde était sa sultane. Le roi chrétien consentit à l'union de sa fille avec Ahmed quand il apprit qu'il serait permis à cette princesse de conserver sa religion. Non qu'il fût grand dévot, mais cet article est toujours entre les princes une affaire d'orgueil très importante. Au lieu de batailles sanglantes, on eut des fêtes et des réjouissances. Le vieux roi retourna ensuite à Tolède et le jeune couple continua de régner aussi sagement qu'heureusement dans l'Alhambra. Je ne puis me dispenser, pour compléter mon histoire, d'ajouter que le hibou et le perroquet avaient suivi le prince sa petite journée. Le premier, ne voyageant que la nuit et s'arrêtant le jour dans les diverses possessions héréditaires de sa famille. Le dernier figurant dans les cercles les plus brillants des villes qui se trouvaient sur sa route. Ahmed récompensa dignement les services que l'un et l'autre lui avaient rendus dans son pèlerinage. Il fit le hibou premier ministre et le perroquet maître des cérémonies. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que jamais royaume ne fut mieux administré, que jamais cour ne fut plus exacte dans l'observation des règles d'étiquette.